Cours de théologie naturelle, 20 janvier 1984, Père Marie-Dominique Philippe Rimond.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire,
priez pour nous.
Saint-Jean,
priez pour
nous. Nous avions commencé, presque terminé, la question de savoir si Dieu peut créer quelque chose après être parti de la définition classique de créer, faire à partir de rien. Saint Thomas se pose la question, Dieu peut-il créer? Et nous l'avions vu, le corps de l'article, et puis nous avions précisé. Et Saint Thomas précise, surtout dans la seconde objection, la réponse à la seconde objection, comment il faut toujours être attentif à la manière particulière dont on connaît et la réalité elle-même, distinguer les deux. En ce sens que notre intelligence connaît la création par le moyen du devenir. Elle ne connaît pas la création directement et elle-même. Elle n'a pas d'expérience de la création. Nous connaissons la création à partir des autres mutations, à partir des autres devenirs. Et c'est pour ça que c'est selon notre modus intelligendi, notre manière de connaître, nous connaissons la création selon une mutation. Mais notre intelligence est capable de pouvoir se critiquer elle-même. L'intellectus, présente dans la ratio, est capable de comprendre que l'intelligence dépasse ce mode rationnel. Et c'est là où l'intelligence se convertit elle-même. Elle a la capacité de se convertir elle-même. Elle a la capacité de se critiquer elle-même pour pouvoir être plus intelligente, c'est-à-dire aller plus loin dans la réalité connue. Et découvrir dans la réalité connue ce qu'on ne connaît pas d'abord en prenant uniquement un mode descriptif. Je veux connaître ce qu'est cette première action, ce premier facere, cette première réalisation. Comme toutes les réalisations, c'est un passage. Voilà ce que je conçois en premier lieu. Tout passage, pour moi, est conçu selon un mode de devenir. Et je peux tout de suite comprendre que ce premier passage n'implique pas de devenir. Et vous comprenez pourquoi. Ce premier passage n'implique pas de devenir parce que ce premier passage n'implique pas de matière présupposée. Pour qu'il y ait un devenir, il faut une matière présupposée. Or, il n'y a pas de matière présupposée. La création dit par elle-même un don total de l'effet. S'il n'y a pas de matière présupposée, il n'y a donc pas de devenir. Il y a donc uniquement l'agent et son effet. C'est en ce sens-là que saint Thomas souligne que si l'analyse du mouvement se fait par l'action et la passion, lorsqu'il s'agit de la création, l'action et la passion doivent être écarté, il ne reste plus que la relation. cette relation de dépendance existant du côté de l'effet, et cette relation qu'on ajoute du côté de l'agent. Donc relation de raison du côté de Dieu et relation réelle du côté de la réalité. Donc je ne souligne pas plus, je vois tout simplement maintenant la troisième objection. En outre, ce qui est fait est nécessairement fait à un moment donné. Et l'on ne peut pas dire de ce qui est créé qu'au même moment, en même temps, il devienne. Et qu'il devienne et il soit devenu. Car dans les choses permanentes, ce qui devient n'est pas. Et cela est qui est déjà devenu. De telle sorte que quelque chose à la fois serait et ne serait pas. Donc, si quelque chose devient, son devenir présuppose. Si quelque chose devient, son devenir précède pour lui le fait d'être devenu. Or, cela ne se peut que s'il préexiste un sujet sur lequel porte le devenir. Rien ne devient donc de rien. Donc c'est tout simplement le vieil adage grec qu'il ne faut pas oublier, qui est repris ici. Rien ne devient donc de rien. Donc vous ne pouvez pas dire que la création s'est procédée à partir de rien. Ça n'aurait pas de sens. Parce que ce n'est plus intelligible. Vous ne pouvez comprendre, vous voyez, c'est ça l'objection, vous ne pouvez comprendre un passage qu'en fonction du devenir. Donc vous ramenez l'intelligence à la raison. Voici la réponse de saint Thomas. On s'appuie encore sur les lois du devenir qui opposent, dit-on, le devenir et l'être. Mais partout, une chose se fait sans mouvement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits du reste, hein. Mais partout où une chose se fait sans mouvement. Vous savez pourquoi saint Thomas dit ça, hein? C'est à cause de la lumière qui, pour les anciens, se fait sans mouvement. In instante. Donc on avait chez les anciens, il y avait une image de la création par le point de vue de l'émanation de la lumière. L'émanation de la lumière était conçue par Aristote et conçue par saint Thomas comme quelque chose qui n'implique pas de devenir. La vitesse de la lumière ne pouvant pas être saisie. Alors on la considérait comme in instante. C'est pour ça que saint Thomas dit ça. Hein. Mais partout où une chose se fait sans mouvement, le devenir et le fait d'être devenu se trouvent ensemble. Parce qu'il n'y a pas de devenir. Quand il y a un devenir, vous maigrissez. Il y a avant et après. Puis entre deux. N'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'une action qui n'a pas de devenir, donc le fait d'être devenu et le devenir se trouvent ensemble. Soit que la chose se fasse au terme d'un mouvement, comme l'illumination, voyez bien, voilà le petit exemple, l'illumination, car c'est en même temps qu'une chose s'illumine et qu'elle est illuminée. Soit qu'elle se trouve étrangère au mouvement, comme dans notre âme, quand le verbe mental se forme, il est déjà formé. Alors ça, c'est aussi une action in instanti, la production du verbe, au point de vue spirituel. Dans ces choses, donc, contrairement à ce que l'objectant assure, ce qui devient est. Et quand on dit qu'il devient, on signifie qu'il est, de par un autre, et qu'auparavant, il n'était point. Comme donc la création n'implique pas de mouvement, c'est en même temps qu'une chose se crée et qu'elle est créée. Il n'y a pas de devenir. Donc c'est en même temps qu'une chose se crée et qu'elle est créée. Il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas d'intermédiaire. On ne peut pas trouver un intermédiaire, un métaxu, entre l'action de Dieu et l'effet de la création. La création et fait, c'est-à-dire la créature. Il n'y a rien entre deux. Il n'y a pas possibilité de concevoir entre deux un devenir. Ce qui fait qu'il y a un entre-deux, où il y aurait quelque chose de commun entre les deux. Il n'y a rien. Il y a d'une part la création, d'autre part la créature. Et les deux sont reliés par une relation. Mais puisqu'il n'y a pas de devenir, il peut y avoir plus que la relation. Et c'est pour ça que nous pouvons affirmer, au niveau de la création, que c'est en même temps qu'une chose se crée, et en même temps qu'elle est créée. Simul aliquid creatur et creatum est. En même temps, vous voyez, alors c'est, la traduction n'est pas tout à fait bonne. Hein. Aliquid, parce que vous devriez dire, parce que se crée, vous comprenez, c'est comme si il y avait un petit mécanisme par lequel nous nous créons nous-mêmes. Hein. C'est du père Sertilange que voulez-vous. Alors, c'est pas toujours exact. Hein. Il y a un petit peu de rhétorique. Alors, on doit sentir ça. Alors, il faut bien comprendre. Cum creatio sit sine motu, simul aliquid creatur. Être creatum est. C'est beaucoup plus fort. Parce que tout le monde ne comprend pas très bien. Alors, c'est en même temps qu'une chose est créée et qu'elle est créée. Vous voyez ? Elle est en train d'être créée et le terme. Autrement dit, le mouvement, il n'y a pas de mouvement, mais elle est créée, tandis que se crée, ça ne va pas. On ne peut pas dire qu'une chose se crée. Vous n'êtes pas vous-même auteur de la chose. Alors c'est difficile à traduire. Aliquid creatur et creatum est. Creatum est, c'est le fait dernier. Et creatur, c'est elle est créée. Donc elle est créée et en même temps, elle est au terme. Puisqu'il y a le télescopage. Alors je crois qu'il faut bien saisir. Aliquid creatur et creatum est. Donc les deux se tiennent, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça que ça veut dire. C'est donc pas contradictoire de dire cela pour une réalité qui justement dépend uniquement d'un autre dans une action où il n'y a rien de présupposé. Entre celui qui agit, qui fait, facere, et l'œuvre, au niveau habituel. C'est toute la question du travail. C'est toute la question du travail. Entre celui qui fait et l'œuvre, il y a quelque chose de commun présupposé à l'action. C'est la matière. La matière unit les deux. Alors, si la matière unit les deux, si la matière unit celui qui fait et l'œuvre, on comprend comment il y a un certain devenir qui peut être à l'intérieur de la matière et à partir de la matière. Et c'est pour ça que ce devenir implique une progression. S'il n'y a pas de matière, évidemment, l'effet est comme un don, puisque tout est effet. C'est ça qu'on va voir progressivement. Dans le propre de la créature, tout est effet. Tandis qu'au contraire, dans une œuvre, la matière est présupposée, la matière est antérieure. On va mettre ici plutôt. Elle est antérieure. Et celui qui agit sur la matière, la transforme et fait l'œuvre. Tandis que lorsqu'il s'agit de la création, on ne peut pas dire que Dieu agit sur une matière antécédente. Qu'il n'y en a pas. Ex nihilo. C'est la force de l'expression ex nihilo. Il agit à partir de rien. Et il réalise tout de suite l'effet, la créature.
Je veux bien saisir encore l'exemple de la formation du verbe.
Ah oui, ça c'est très délicat. C'est l'analogie. Oui, je n'ai pas insisté dessus exprès. Parce que c'est très délicat. Est-ce que vraiment c'est une analogie? C'est une analogie en sens que nous sommes dans l'ordre de l'esprit. Mais il y a quand même un devenir, hein, puisque le verbe est dans l'intelligence. Il est fruit de l'intelligence et il est dans l'intelligence. Alors, puisqu'il est dans l'intelligence et qu'il est le fruit de l'intelligence, d'une certaine manière, il se fait directement, il est fait in instanti. Je crois que c'est l'idée du fait qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de progression qui permet saint Thomas de maintenir l'énergie, exactement comme l'illumination. Alors l'illumination, nous savons très bien que c'est pas juste, on doit corriger cela, on peut le maintenir uniquement comme illustration, c'est la seule chose. Du reste, on n'a pas besoin d'avoir d'exemple. Hein. Saint Thomas nous donne ses exemples, on n'en a pas besoin, puisqu'au fond, ces exemples ne sont pas justes, la création est unique. Elle a quelque chose d'unique. Alors, il vaut presque mieux supprimer les exemples. Parce que les exemples risquent de nous tromper. Vous comprenez que dans le point de vue du concept, l'objet est antérieur. Si l'objet est antérieur, il n'est pas fait. Donc le verbe n'est pas totalement le fruit de l'intelligence. Il est le fruit de l'intelligence et de l'objet. Donc il y a une coopération. S'il y a une coopération, ça ne se fait pas in instanti. Toute coopération présuppose un certain devenir, mais un devenir qui est spirituel, qui n'est plus matériel et qui n'est plus physique, et donc qui n'est plus constatable. Oui.
C'est dans l'ordre de l'assimilation.
Hein. Oui, c'est dans l'ordre de l'assimilation.
Est-ce que l'assimilation, l'assimilation
non, pas du tout. Votre assimilation n'est pas instantanée. Quand vous mangez un bon repas, vous mettez longtemps à le digérer. Hein? Si on mange comme un moineau, ça va vite. Mais au fond, autrement, ça met longtemps à digérer. Donc, c'est pas du tout, c'est pas instanti. Le point de vue du vivant implique un devenir. Il y a une croissance. Et vous voyez ce que dit saint Thomas là, au point de vue du verbe. On sait très bien que c'est pas juste. Parce que quand on commence à comprendre quelque chose, on le saisit, mais on n'arrive pas à le dire. Quand vous suivez un cours de métaphysique, vous arrivez à saisir quelque chose. Oui, je comprends, c'est très intéressant, mais j'arriverai jamais à pouvoir leur dire. C'est pour ça qu'aux examens, on ne sait rien. Et vous dites, j'ai compris, mais je ne sais pas le dire. Il y a deux choses différentes. On peut comprendre sans pouvoir le dire. Mais ça, il faut des examinateurs extrêmement intelligents. Et donc infiniment miséricordieux. En disant, mais oui, je devine bien que vous comprenez, mais... Je le présuppose que vous comprenez, mais vous n'arrivez pas à le dire. Et c'est très vrai, on peut très bien comprendre et ne pas pouvoir le dire. Pour pouvoir le dire, il faut le comprendre parfaitement. Et donc, il faut que le verbum soit parfaitement conçu et qu'il devienne le dicere, qu'il puisse être dit. Autre chose est concevoir, autre chose est dire. Vous ne pouvez transmettre votre pensée que quand vous la connaissez parfaitement. C'est toujours le signe de l'être parfait, c'est d'être fécond. La fécondité présuppose la perfection. Alors, s'il y a la perfection dans la connaissance, vous pouvez le dire. Mais si vous êtes à l'état embryonnaire, vous commencez à concevoir. Oui, je commence à saisir quelque chose. Je crois bien que je saisis quelque chose. Mais c'est encore très imparfait. Et ça met du temps avant de devenir parfait. Mais ce qui montre bien que ce n'est pas une instanti. Et c'est pour ça que ce que dit saint Thomas là n'est pas juste. C'est à peu près, ce sont des exemples. Ce n'est pas une analogie. Ce sont des exemples. C'est uniquement une illustration. Et cette illustration est un peu gênante, vous voyez, quand il s'agit d'une théologie scientifique. Elle ne serait pas gênante en théologie mystique. On se servirait d'un symbole, d'une connaissance symbolique. Mais en théologie scientifique, c'est gênant. C'est pas tout à fait juste. Vous voyez ? C'est uniquement des illustrations, pas plus. Donc des analogies métaphoriques. C'est pas des analogies propres. C'est des analogies métaphoriques. Au niveau analogie métaphorique, très bien. Alors, voyons la quatrième objection, parce que cette question est très importante. En outre, une distance infinie ne se traverse point. Or, il y a une distance infinie entre l'être et le rien. Et du rien, rien ne peut donc venir. Toujours, hein ? On revient là-dessus. Il y a une distance infinie entre le rien. Le rien est l'analogue de la matière. Hein ? Entre le rien et la créature, c'est une distance infinie. Entre la matière et l'œuvre, il n'y a pas de distance infinie. Il y a une distance finie. Tandis qu'entre le rien et la créature, il y a une distance infinie. Et c'est intéressant. Pensez toujours au petit schéma heideggerien derrière, hein, parce que c'est très curieux. Alors, quant au quatrième argument, il procède d'une fausse imagination. Dicendum quod objectio illa procedit ex falsa imaginatione. Vous imaginez la création. Et c'est vrai, nous faisons ça automatiquement. Parce que nous ne la concevons pas, alors nous l'imaginons. Alors il faut arriver à purifier cette imagination pour comprendre qu'on ne peut pas saisir la création. Mode négatif. Donc, quant au quatrième argument, il procède d'une fausse imagination. On raisonne comme s'il y avait, entre le néant et l'être, je ne sais quel infini intermédiaire. Mais cela est évidemment faux. Cette illusion vient de ce que la création est signifiée dans le langage à la manière d'une mutation entre deux extrêmes. Donc, il revient tout le temps à ça. Vous voyez qu'au fond, cet article se résume à quelque chose d'assez simple. Nous imaginons la création sur le prototype de tous les mouvements. Et nous connaissons la création à la manière du mouvement, en niant le mouvement. Et ça, on peut le faire. C'est procéder par mode de négation qui nous permet de connaître quelque chose qui nous dépasse, dont nous n'avons pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience de la création. Je saisis la création par la foi, mais je n'ai aucun concept. Quand j'ai dit « je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre », qu'est-ce que vous concevez? Vous croyez, mais vous ne concevez rien du tout. Si vous mettez à réfléchir, alors vous pouvez dire que vous concevez la création à la manière d'un mouvement dont vous niez ce mouvement. Vous voyez comme c'est riche. Mais c'est quand même beaucoup plus supérieur à l'imagination. Parce que dans l'imagination, vous imaginez la création à la manière du mouvement et vous ne niez plus rien du tout. Et vous restez dans votre image. Et donc, en restant dans votre image, vous êtes complètement à côté de la réalité. Tandis qu'en niant en niant ce mot douce, intelligendi, je suis en face de l'abîme. Je suis en face de la créature, totalement reliée au Créateur. Et il n'y a rien entre deux. Et je ne peux pas dire qu'il y a une distance infinie entre le rien et la créature, puisque le rien n'est rien. Donc il n'y a pas de distance infinie. Vous imaginez ça. Vous imaginez qu'il y a une distance infinie, mais il n'y a pas de distance infinie. On n'a pas peur du rien. Le rien n'est rien. C'est un concept de raison, le rien. Ne non-être, hein, c'est un concept de raison. Vous ne pouvez même pas vous représenter ce que c'est que le rien. Il faut demander ça à des gosses, hein. Représentez-vous le rien. Vous verrez les choses qu'ils feront. C'est extraordinaire. Hein, et chacun fera une représentation différente. Hein, représentez-vous le rien. Ah, quelqu'un d'un peu plus évolué, quand on lui demande de représenter le rien, il dira « je ne me représente rien ». Donc, à ce moment-là, il refuse la représentation. Mais c'est l'intelligence qui refuse la représentation. C'est l'intelligence qui refuse que le devenir soit dans la création. Et je refuse que le devenir soit dans la création parce que la création ex nihilo. La création est le don de tout l'être. Donc si c'est le don de tout l'être, il n'y a rien d'autre. Et tout ça, c'est pour que nous comprenions la force de la création par mode négatif. Le don de tout l'être. Et c'est sûrement, hein, pour ceux qui s'intéressent au point de vue métaphysique, c'est sûrement la réponse à la seconde objection qui est la plus intéressante. C'est ça qui prime dans cet article. même très curieux qu'il l'ait mis en objection. Parce que, de fait, c'est cela qui est le plus fort. Alors, troisième article, la création est-elle quelque chose dans la créature? Alors là, nous entrons dans une analyse. C'est très métaphysique, vous voyez ça. Hein, je comprends très bien que ceux qui n'ont pas fait de métaphysique, quand ils commencent le traité de la création de saint Thomas, ne comprennent rien. Alors, parce qu'ils ne comprennent rien et qu'ils n'avouent pas qu'ils ne comprennent rien, il dit c'est stupide. On est tous comme ça. C'est de la métaphysique pure, ça. C'est de la métaphysique pure, alors, assumée par la foi, transformée par la foi, mais c'est une métaphysique pure. Donc la création est-elle quelque chose dans la créature? Vous voyez bien le problème. Il n'y a rien entre les deux. Il y a la créature. Alors est-ce que je peux dire que la création est-elle quelque chose dans la créature? Cependant, c'est quelque chose de plus pour un être d'être fait selon toute sa substance que d'être fait seulement quant à sa forme, soit substantielle, soit accidentelle. Or, la génération absolue ou relative, par quoi quelque chose devient, soit selon sa forme substantielle, soit selon une forme accidentelle, est quelque chose dans l'être engendré. C'est évident que la génération est quelque chose en être engendré. Donc, à bien plus forte raison, la création par laquelle quelque chose est fait selon toute sa substance est quelque chose dans l'être créé. Multo magis creatio qua fit aliquid secundum totam substantiam est aliquid in creato. Alors, voyez cette aliquide. In creato. Tâtez-vous le pouls pour saisir cette aliquide. Qu'est-ce que c'est que cette aliquide? Il est quelque chose dans la créature. Alors, tout le corps de l'article va essayer d'exprimer cette aliquide. La création pose, en effet, quelque chose dans le créé. Creatio ponit aliquid in creato secundum relationem tantum. Selon la relation seulement. Donc cet aliquid, première chose qu'on voit, c'est une relation. Cet aliquid in creato dans la créature. En effet, ce qui est créé ne se fait point par un mouvement ou par un changement. Ce qui est créé se fait au-delà de tout changement. C'est très très intéressant ça, vous voyez, pour bien montrer la différence entre l'évolution et la création. Pourquoi les théologiens d'aujourd'hui ont-ils tellement peur de parler de la création? C'est à cause de l'évolution. Alors j'ai une phrase intense. Depuis Teilhard, ils ont peur. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas au même niveau. Une fois que vous avez compris que ce n'est pas au même niveau, on peut vous dire n'importe quoi. À quel niveau se situe l'évolution? Vous vous souvenez de cet article qui a fait beaucoup de bruit à ce moment-là, de Rostand par rapport au père Teilhard, qui était un article extraordinairement intéressant. Où Rostand a dit « Teilhard n'a rien compris à l'évolution ». C'est mieux, hein? Et je le dis en tant que savant. Et comme Rostand est quelqu'un qui était vraiment dans l'évolution, quand il a dit ça a fait beaucoup de bruit. Teilhard ne comprend rien à l'évolution. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas que l'évolution est au niveau de la vie biologique. Et que je ne peux pas parler d'évolution en dessous, au-dessus. C'était très beau, ça. C'était très intéressant. Parce que c'est un savant qui critique. Quand c'est un théologien qui critique, on dit qu'il n'a rien compris à la science, donc c'est pour ça qu'il critique. Hein. Mais quand c'est un savant comme Rostand qui critiquait le point de vue de Teilhard, c'était très intéressant. Et c'est vrai, vous voyez. Vous avez les niveaux différents. Vous avez le devenir. Vous avez l'être. Vous avez le niveau du mouvement vital, biologique. Tout mouvement vital, biologique implique le devenir. Il est au niveau du devenir. Et donc l'évolution, si elle existe, elle est à ce niveau-là. Tandis que la création, elle est à ce niveau-là. Alors une fois que vous avez distingué l'être et le devenir, ça ne vous inquiète plus l'évolution. L'évolution ne peut pas supprimer la création. C'est impossible, c'est deux points de vue différents. C'est comme si vous prétendiez que le devenir supprime l'être. Évidemment, si vous n'avez pas fait la distinction, si vous êtes hégélien, c'est très très gênant. Parce que si vous êtes hégélien, vous ramenez l'être au devenir, et donc vous ramenez la création à l'évolution. C'est la conséquence immédiate, vous ne pouvez pas faire autrement. Dans une perspective dialectique hégélienne, vous ramenez l'être au devenir, et donc vous ramenez la création à l'évolution. Donc vous supprimez la création. Alors je comprends très bien que les théologiens hégéliens, aujourd'hui, ils sont nombreux, très nombreux. Un théologien hegelien, le problème de la création, c'est terriblement gênant, à cause de l'évolution. Ils ne peuvent plus parler qu'en termes d'évolution. Il faut saisir ça, il faut le saisir, hein, même si on n'arrive pas toujours à bien répondre, il faut saisir cet aspect-là. Donc, en effet, ce qui est créé ne se fait point par un mouvement ou par un changement. Vu que ce qui se fait par mouvement ou changement se fait à partir d'un terme préexistant. Toujours la même chose. Tout devenir présuppose un sujet. Tout devenir présuppose une matière antérieure à l'effet, au résultat. Vu que ce qui se fait par mouvement ou changement se fait à partir d'un terme préexistant, comme cela a lieu dans les productions particulières de certains êtres, mais ne peut se retrouver dans la production de tout l'être par Dieu, cause universelle de tous les êtres. Dieu est cause de tous les univers, de tous les êtres, et il est cause de tout l'être. Enfin, il y a les deux, l'universalité et la compréhension par rapport à la création. Dieu donc, quand il crée, produit les choses sans mouvement. Je vais reprendre tout le temps, mais c'est toujours cette notion difficile pour nous, c'est pas commode, c'est sûr. Or, le mouvement ôté, donc Satana va reprendre l'ad secundum de l'article précédent. Or, le mouvement ôté de l'action et de la passion, il ne reste plus rien qu'une relation, ainsi qu'on l'a dit. Il demeure donc que la création dans la créature n'est qu'une simple relation au créateur, comme au principe de son être, comme à la source de son être. De même que dans la passion, qui suppose mouvement, est impliquée une relation au principe de ce mouvement. C'est une simplicité absolue. J'espère que vous commencez à voir. Le danger, c'est que quand on supprime l'action et la passion, il ne reste plus rien. Vous ne voyez plus comment la relation demeure. Et au fond, c'est ça qu'il faut saisir. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de devenir. Donc, il n'y a pas action et passion. Puisque le devenir s'analyse par l'action et la passion. Mais pas dire que la création est une passion. Vous n'avez pas pâti en tant qu'une créature. Vous n'avez pas pâti. Dieu ne nous fait pas pâtir par l'acte créateur. Il nous fait être. Donc, si vous supprimez le devenir, vous supprimez donc l'action et la passion. Qu'est-ce qui reste plus que la relation ? la relation dont le fondement normal est l'action et la passion. Et c'est là la très grande difficulté, vous comprenez. Parce que si vous supprimez le fondement, est-ce que vous ne supprimez pas la relation? Et pourtant, vous maintenez la relation. Alors, il faut saisir bien la question. Vous supprimez le devenir. Et donc, vous supprimez action et passion. Parce que le devenir s'analyse par l'action et la passion. Vous supprimez le devenir, mais vous ne supprimez pas les faits, le résultat. Le résultat, il existe. La créature, elle existe. Elle existe, la créature. Et cette créature qui existe est donc en relation vis-à-vis du créateur. Il ne reste donc que la relation de dépendance radicale de la créature à l'égard du créateur. Et donc, la création dans la créature, c'est une relation de dépendance. La dépendance totale. Alors, il faut préciser quel est le fondement de cette relation. C'est ça toute la difficulté. C'est là où les écoles théologiques se diversifient. Parce que tout le monde est d'accord parmi tous les théologiens que la création n'est pas un devenir. Même Don Scott. Ce n'est pas un devenir, la création. Et ça ne peut pas être un devenir. Donc, on doit supprimer par le fait même le point de vue de l'action et la passion, et il ne reste que la relation, et une relation de dépendance. Alors, nous allons vous préciser, vous allez voir tout de suite. Première objection. Comme la création, prise passivement, s'attribue à la créature, ainsi la création prise activement est attribuée au créateur. Or, la création active ne peut pas être une réalité dans le Créateur, car il n'y aurait alors en Dieu quelque chose de temporel. Donc, dans la créature, non plus, la création n'est pas une réalité distincte. Petit raisonnement très univoque. Ce qui est vrai de Dieu doit être vrai de la créature. Pas nécessairement. Du côté de Dieu, l'acte créateur n'ajoute rien. Dieu, en créant, n'acquiert pas un surêtre. Dieu, en créant, il n'y a rien qui s'ajoute à Dieu. C'est extraordinaire, ça on est obligé de le dire, étant donné la simplicité de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu, en créant, augmente son être. Vous, en réalisant quelque chose, en réalisant une dissertation philosophique, vous augmentez votre être. Vous remerciez ceux qui vous font faire une dissertation théologique. Puisque vous, par là, vous augmentez votre être. Toujours, dès qu'on fait quelque chose, c'est ça la chose merveilleuse du travail. Par le travail, vous dilatez, vous épanouissez. Vous avez un domaine qui avance. Il n'était pas rattaché à vous, qui est rattaché à vous. Tandis qu'en Dieu crée, il n'y a rien qui s'ajoute à Dieu. Extraordinaire. C'est une des choses foudroyantes quand on réfléchit à la création. Rien ne s'ajoute à Dieu. On ne peut pas ajouter quelque chose à Dieu. Dieu donne tout de lui et ça n'ajoute rien. Mais du côté de la créature, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Vous ne pouvez pas dire que la création n'ajoute rien à la créature. Puisque la créature n'existe que grâce à la création. Donc, qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que c'est que la création dans la créature? Ce n'est pas une passion. C'est quoi? C'est une relation. Alors, on va préciser. La création, dit-on, activement prise, n'est pas une réalité dans le créateur. Donc, non plus passivement dans la créature. Activement prise, la création signifie l'action divine, identique à son essence et impliquant relation avec la créature. La création prise d'une façon active, c'est Dieu lui-même. Puisque ça ne peut pas être un petit accident qui s'ajoute. Activement prise, la création signifie l'action divine, identique à son essence et impliquant relation avec la créature. Seulement, Une relation en Dieu à la créature n'est pas chose réelle, c'est chose de pure raison. Au contraire, la relation de la créature à Dieu est une relation réelle, comme on l'a dit plus haut, à propos des noms divins. Donc, du côté de la créature, la création, c'est une relation réelle de dépendance à l'égard de Dieu. Seconde objection. En outre, peut-il y avoir une réalité intermédiaire entre le créateur et la créature? Or, la création se présente comme intermédiaire entre l'un et l'autre, car elle n'est pas le créateur, n'étant pas éternelle. Elle n'est pas non plus créature, car il faudrait alors, pour la créer, une autre création, et ainsi à l'infini. Vous voyez bien. La création n'est donc pas, dans la créature, une réalité spéciale. C'est joli, ça, hein, comme objection. C'est intéressant, comme objection. Alors, réponse. On craint de ce fait des inconvénients illusoires. Ça, c'est ajouté. Ça sent tout de suite, hein, on sent tout de suite le Saint-Omer, on sent tout de suite la glose. Saint-Omer n'ajoute jamais rien. Dicendum quod, quia creatio significatur ut mutatio, parce que la création est signifiée comme une mutation. De ce fait que la création est conçue par nous à la manière d'un changement, d'une mutation. Et parce qu'une mutation est une sorte d'intermédiaire entre un moteur et un mobile. Il arrive que la création même est signifiée comme intermédiaire entre le créateur et la créature. En réalité, la création passivement prise est dans la créature et elle est créature. C'est la créature elle-même. Mais il ne s'ensuit pas, comme on le prétend, qu'elles doivent être l'objet d'une création nouvelle, car elle est une pure relation. Et les relations, selon tout ce qu'elles sont, disant un rapport à autre chose, ne se réfèrent point aux moyens d'autres relations, mais par elles-mêmes, comme on l'a dit plus haut, à propos de l'égalité des personnes divines. Oui, alors là, c'est tout le traité de la très sainte Trinité. Vous voyez ce que saint Thomas veut dire ici, hein? C'est que la relation ne peut pas reposer sur une relation. C'est la question du fondement de la relation. L'objection consistait à dire ça. La création ne peut pas être une relation, parce qu'il faudrait poser: qu'est-ce qui crée cette relation? Alors on entrer à l'infini. Parce que la relation serait elle-même une créature. Si la relation est une créature, il faut donc poser une relation de la relation. Non, pas du tout. Il ne peut pas y avoir une relation d'une relation. Donc on termine tout de suite ça. Et ça maintient que la création prise du côté de la créature, c'est une relation dépendante qui provient de la créature comme créature, en tant que créature. Alors, c'est ici où on va avoir quelque chose de particulièrement intéressant. La troisième objection. Il faut bien le dire, parce qu'on n'aura sans doute pas le temps. Hein. Au surplus, si la création est quelque chose en dehors de la substance créée elle-même, elle n'en peut être qu'un accident. Il faut être très attentif à cette objection, parce qu'elle est très belle. Hein. Et tout accident est dans un sujet. La chose créée serait donc le sujet de la création. Et ainsi, la même réalité serait à la fois le sujet de la création et son terme, ce qui est impossible. Car le sujet est antérieur à l'accident et le soutient. Au contraire, le terme est postérieur à l'action et à la passion, dont il est le terme. Et dès qu'il existe, l'action ou la passion cesse. On voit donc bien que la création même n'est pas une réalité. Donc l'objection consiste à dire, vous voyez, que si la création est une relation, il faut un sujet. Pour un sujet, il faut un fondement. Comme toute relation. Alors, le sujet est antérieur à l'accident. Or, la relation, c'est la relation de création. Il faut donc poser quelque chose d'antérieur à la création. Et donc, il ne serait plus l'effet de la création. C'est logique, hein, ça ne peut pas être autrement. Dès que j'analyse, c'est absolument logique. Donc, on ne peut pas dire que la créature qui est créée, la créature, soit le sujet de la création. Or, si vous dites que la création est une relation de dépendance, il faut nécessairement dire que la créature est le sujet. Ça, je vous le donne en mille. Hein. Cherchez la solution, sans regarder saint homme. On est coincé, c'est pas commode du tout. Jusque-là, on suivait, oui, c'est très...